Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Bienvenue à Crime de Bine,
le podcast de racontage d'histoires de meurtre et d'enquête.
Oui, exactement. Je suis Hélène et je suis accompagnée de...
Mélanie.
Alors, on est toujours là à se raconter des histoires de façon semi-sérieuse parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer.
Et aussi parce qu'on rappelle à tous nos millions d'auditeurs que nous ne sommes pas des psychologues ou des avocates ou des professionnels du légal ou des cas criminels et tout. On fait juste se raconter des histoires vraies de meurtriers, de tueurs en série, casual.
Très casual. Ouais, donc pour le troisième épisode, j'ai préparé une histoire. Qui est l'histoire de William Patrick Fife.
Ouf, j'en ai entendu parler.
Oui, il est assez connu là, dès qu'on commence à rechercher tueur en série au Québec. C'est pas mal le premier qui sort parce que, ben, de ce que j'ai vu, je pense que c'est lui qui a fait le plus de victimes.
Au Québec?
Au Québec, oui. Ouais.
OK.
Ouais.
Mon Dieu, je suis prête. Yes. Vas-y.
OK. J'ai pris mes sources sur Murderpedia. J'ai découvert ce site-là, c'est incroyable. Ouais. Wikipédia, mais pour les meurtres. Globe and Mail, Montreal Gazette, La Presse, podcast site qui s'appelle Who Killed Teresa. Et je suis tombée aussi sur un documentaire de reconstitution qui s'appelle Crime Stories, puis ils ont un épisode là-dessus.
Ooh.
J'ai bien du plaisir. Donc, William Patrick Fife. Fun fact, t'avais-tu remarqué que les tueurs en série, ils ont toujours trois noms? T'sais, ils ont toujours comme un nom du milieu.
Hein, c'est vrai qu'on
William,
tout
Patrick
le temps.
Fife. Puis apparemment que c'est pour pas qu'on se mélange avec une autre personne, mettons, qui s'appelle William Fife.
Ça serait
vraiment plate pour l'autre personne.
Hein, j'avais pas
fait
remarqué,
mais pour être sûr de faire la différence, t'sais, on va souvent mettre le nom du milieu ou le deuxième prénom, t'sais, pour faire la différence. Fun fact.
Écoute, on en a
fun fact
les
de
jours.
Meurtre. Donc, l'histoire de William Fife, qui est aussi connu sous le nom du tueur concierge, du concierge tueur.
Okay.
Handyman killer.
Oh, j'aime ta traduction.
Alors, l'histoire commence le 14 octobre 1999.
Oh.
Donc, peu de temps avant ce que les gens croyaient être la fin du monde, l'an 2000.
Mm-hmm.
Mais les gens savaient pas qu'en fait, la vraie fin du monde, c'était en 2020.
Tatouchi!
Ouais.
Je la trouve bonne.
Merci. Donc, oui. Alors, le 14 octobre 1999, dans la ville de Senneville, qui est dans le West Island de Montréal.
Ouh! Shout-out à mon copain qui vient de West Island.
Yeah! Shout-out à nos amis du West Island. Donc, c'est l'histoire de Anna Yarnold, une femme de 59 ans, qui est décrite comme une femme artistique. Elle est mariée, elle a une fille, et elle habite dans une maison qui est un peu à l'écart de la route qui est entourée d'arbres. Alors, le 14 octobre, là, elle s'inquiète pour son chien, qui s'appelle Trooper. Fait que, elle pense qu'il y a comme une petite bosse, là. Fait que là, elle va au vétérinaire. Fait que là, effectivement, il semble avoir une tumeur. Puis là, le vétérinaire, il dit que probablement qu'il faut l'opérer, t'sais. Fait que là, elle retourne à la maison, le soir même, là, elle est comme super inquiète pour son chien, t'sais. Fait que là, elle parle à sa fille au téléphone, elle pleure, comme elle est vraiment émotive. Elle parle aussi à son mari. Puis là, son mari, j'ai comme pas compris exactement où il travaillait, mais t'sais, clairement, il travaillait pas à Montréal, fait qu'il rentrait pas ce soir-là, dans le fond. Et il rentrait juste le lendemain. Alors là, le jour suivant, sa fille et son mari s'inquiètent parce qu'elle était super émotive la veille. Fait que, tu sais, il essaie de la rejoindre pendant la journée, mais il n'arrive pas à la rejoindre. Fait que là, il appelle, il s'inquiète. Et là, finalement, le mari, il revient à la maison. Là, il arrive à la maison, il voit la voiture, les lumières sont allumées. Il rentre dans la maison, il ne trouve pas sa femme. Là, en haut, il monte, il trouve dans la chambre d'amis, il trouve le chien. Trooper, il est comme embarré dans la chambre d'amis tout seul. Genre.
OK. Puis là, vivant.
Vivant. Ouais. OK. Puis là, il est bien content de le voir. T'sais.
À force de lire des histoires de meurtre, on pense toujours que tout le monde est totalement mort.
Non. Pour les cœurs sensibles, il n'y a pas de meurtre de chien dans cette histoire. et aussi, il trouve le portefeuille de sa femme, puis les cartes sont comme un peu comme à moitié sorties.
OK.
Fait que là, il est comme, OK, elle est pas loin, là. T'sais, son portefeuille est là, la voiture est là, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là, finalement, il sort dans la cour, puis c'est là qu'il la trouve. Elle est morte, à plat ventre, dans les fleurs, dans la cour. Fait que là, tout de suite, il alerte la police. Là, la police arrive sur les lieux, et l'expert médico-légal Jean-Paul Meunier, apparemment que c'était comme the shit à l'époque, là. C'est comme le plus hot expert médico-légal. Fait que là, c'est lui qui vient comme inspecter la scène. Donc, ce qu'il remarque sur... le corps de Madame Yarnold, donc elle a des ecchymoses sur le visage et au cou. Elle a été frappée à la tête avec un pot de fleurs qui est juste à côté. Donc, ce qui arrive à reconstituer, selon les indices qu'ils trouvent, c'est probablement que l'attaque a commencé dans la salle de bain, parce qu'ils trouvent les lunettes de Madame Yarnold dans la salle de bain, dans l'évier. Puis probablement qu'elle a tenté de s'enfuir. Puis c'est comme quand il était dans la cour en train de s'enfuir, le meurtrier l'a rattrapé et l'a frappé avec le pot de fleurs, qui était comme l'objet à portée de main.
OK.
Là, malgré mon travail de M. Meunier, là, l'expert, il trouve pas d'empreintes dans la maison. T'sais, entre autres, relever des empreintes sur un pot de fleurs en ciment, c'est comme vraiment dur. Là, c'est pas une surface faite pour ça. Mais là, avec la police, ils se disent, OK, il y a des cartes de crédit volées. Mais tout ça, tu sais, ce meurtre-là, juste pour des cartes de crédit, ouais. Ça semble un peu overkill. Là. Fait que tout de suite, ils suspectent le mari.
Oh, classique.
Ouais. Classique. Mais tu sais, j'avoue, c'est toujours la première personne suspectée. Oui. Et j'avoue que dans ce cas-là, tu sais, elle a pas été agressée. Puis tu sais, juste des cartes de crédit volées, ça semble un peu, effectivement, louche. Ça, on dirait pas un vol normal. Ou un...
Mm-hmm.
Donc le mari est suspecté. Là, la fille de la victime est appelée à se rendre au poste de police, puis elle sait même pas encore que sa mère est morte, là. Elle sait rien. Elle arrive au poste de police, puis là, il commence à lui poser des questions. « Ah, oh, c'est comme, tu sais, c'est quoi la relation de tes parents? » Non, non, non. Elle est comme, « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Finalement, ils finissent par lui annoncer que sa mère est décédée.
Mm.
Puis, spoiler, le mari s'appelle pas William Fife. Enfin, c'est pas lui.
Ça aurait été bon, une bonne twist. Ah, finalement, William Fife, c'est lui.
Puis là, les gens du quartier du West Island ont vraiment peur parce que 3 mois plus tôt, le 10 juillet 99, dans le même coin, sur le boulevard des Sources à Pierrefonds, il y a Jeannette Kuczynski, une mère de 3 enfants qui avait 43 ans. Elle a été battue à mort alors qu'elle marchait sur une piste cyclable. Elle faisait sa marche habituelle de soirée, tu sais. Puis elle a été retrouvée.
C'est tellement près de où ma belle-mère habite.
Ah ouais.
c'est là qu'elle habite. Oh mon Dieu. OK.
Puis elle a été retrouvée le lendemain. Puis il n'y avait pas de traces d'agression sexuelle. Il n'y a rien qui a été volé. Fait que là, les gens se demandent est-ce que c'est relié. Là? C'est quand même vraiment dans le même coin, 2 agressions violentes. Je te donnerai la réponse plus tard.
Ah, OK. Mmh. Suspense.
Suspense. Alors là, la police a dit aux gens de faire attention aux inconnus, barrez vos portes. Ensuite, le 29 octobre 1999, à Sainte-Agathe. Donc, on change de coin.
Je connais personne dans ce coin-là. C'est bon.
Moi non plus.
Parfait.
Monique Gaudreau est une infirmière de 45 ans. Là, ses collègues s'inquiètent parce qu'elle ne se présente pas au travail. C'est pas dans ses habitudes de faire ça sans, sans avertir. Alors lui, il appelle sa sœur. Puis là, sa sœur, elle va voir la maison. Et elle retrouve sa sœur morte, nue, par terre, dans la chambre. Okay. Là, la police est appelée. Et là, cette fois-ci, c'est madame la biologiste médico-légale Jacinthe Prévost, qui est la madame badass dans l'émission. donc, apparemment que la scène était vraiment choquante, là. Même pour les experts, c'était vraiment, vraiment sanglant, là.
Oh!
La victime a été poignardée 55 fois.
55?
C'est tellement trop de fois.
C'est rendu là.
Et elle, la victime avait une longue coupure du haut du thorax jusqu'au bas de l'abdomen. Donc, c'était vraiment, vraiment sanglant.
Mon Dieu!
Rien n'a été volé et il n'y avait pas de signe d'entrée par infraction.
Aïe, c'est... Ils ont c'est pas qui l'a trouvé, t'as dit?
C'est sa sœur.
Oh,
ouais.
OK.
Donc, ils ne trouvent pas d'empreinte. Par contre, ils trouvent des gouttelettes de sang à la porte d'entrée. Donc, ils pensent que c'est le tueur. Parce que ça arrive souvent, apparemment, que quand tu poignardes quelqu'un vraiment beaucoup de fois, tes mains finissent par devenir glissantes à cause du sang.
Oh.
Comme ça lubrifie. Puis, les gens qui poignardent, ben là, ils vont... comme la main va glisser sur la lame alors qu'ils poignardent. Fait qu'ils souvent, ils vont se couper eux-mêmes.
Ah!
Quand ils poignardent, ça arrive quand même souvent, ces trucs-là.
Pauvres autres.
Pauvres. Puis là, grâce à ça, ben là, il a laissé son ADN parce qu'il y a des gouttes de son sang. Donc, ils réussissent à avoir un profil d'ADN avec ça. Donc, ils peuvent identifier que c'est un homme qui habite pas à cette adresse-là, mais ils ont pas d'autre ADN à qui le comparer pour l'instant. Donc, ils savent juste que c'est comme ADN, profil inconnu, probablement le tueur. Donc, à l'extérieur, ils retrouvent une empreinte de soulier en sang. Fait que là, tout de suite, ils savent que c'est le soulier du tueur parce qu'il a pilé dans le sang. Donc, ils ont la taille, puis ils prennent comme une empreinte, c'est de la... Comme... Après ça, tu peux le comparer à des souliers, là.
C'est comme dans les mauvais films d'horreur, la trace de sang vraiment claire. Tu sais, la marque de la chaussure, tu sais tout.
Vraiment, c'est comme... C'est drôle. Mais là, à ce moment-là, la police, elle n'a pas encore établi de lien entre ce meurtre-là et le meurtre de Madame Yarnold dans le West Island, vu que c'est vraiment pas dans le même quartier. Ben, dans la même ville,
mais
en fait.
Mais les deux sont dans le West Island. Ah non, on est dans Saint-Agathe.
Celle-là, on est à Saint-Agathe, on est quand même dans les Laurentides, c'est au nord de Montréal, alors que l'autre, c'est le West Island.
Le voyage, notre monsieur Fife.
Ah oui, tu sais pas à quel point.
Ah ouais, on dit j'ai hâte.
Ensuite, le 19 novembre 1999, donc vraiment pas longtemps, là, comme trois semaines après... Le meurtre de Mme Monique Gaudreau, à Laval, il y a un homme qui se présente dans des édifices à logement sur la rue Havre des Îles à Laval, puis il est coiffé d'un casque comme portent les ouvriers de construction. Il frappe à plusieurs appartements, puis il dit qu'il vient réparer de la plomberie. Et là, ça tombe que quelques jours après, Madame Teresa Litzak, qui était une femme de 55 ans, comptable, elle ne se présente pas au travail. Ses collègues s'inquiètent. Ils appellent la police, puis il y a des collègues qui vont avec la police à l'appartement de Madame Litzak. Puis ça, c'était comme trois jours plus tard que de son décès, en fait. Et là, il arrive à la porte, il voit des journaux accumulés devant la porte. Alors, c'est louche. Alors, il demande au concierge d'ouvrir la porte. Et finalement, il rentre dans l'appartement et il retrouve Teresa sur son lit, morte. Elle a été agressée sexuellement et a été poignardée 32 fois.
Mais voyons. Ouais. On voit comme un petit pattern de m'être sûre qu'elle va être bien morte.
Ouais. Ouais, c'est pas mal de l'overkill. Mais c'est vraiment? Ça, souvent, ce signe-là d'overkill, quand quelqu'un va être poignardé comme beaucoup trop de fois par rapport à... T'sais, on sentait qu'elle est morte probablement après 5 fois. Là.
Mm-hmm.
Souvent, c'est quand il y a une relation d'intimité entre la victime et le tueur. Donc souvent, les crimes passionnels vont avoir de l'overkill, mais dans ce cas-là, c'est pas du tout.
Non,
le crime passionnel, le tueur, il connaissait pas ses victimes.
Ah, c'est quand tellement même spécial. Fait chier, c'est comme une vengeance de la poignarder autant de fois.
Mais là, vraiment pas. T'sais. Donc, c'est ça. Ils retrouvent aussi... Ben, ils se rendent compte que les cartes bancaires ont été volées.
Parce que Fife, lui, il n'y a pas de relation sexuelle avec ses victimes.
Oui, il les agresse. Ouais.
Ah, il les agresse aussi?
Ouais.
Ah.
Et là, vu qu'ils ont découvert que les cartes avaient été volées, ils réussissent à retracer les dernières transactions faites sur les cartes. Puis, ils réussissent à voir, avec la caméra du guichet, il voit que c'est un homme qui a utilisé la carte la dernière fois. Oh. Fait que là, il voit que c'est un homme blanc, mais il portait un capuchon. Fait que c'est vraiment difficile à identifier. Là. Fait que ils ont juste une idée de sa grandeur à peu près, puis que c'est un homme blanc. Puis il connaissait le NIP.
OK. Ah, ouais. Oh, il connaissait le NIP?
Ouais. Hein? Il a réussi à le soutirer de la victime. Là. Hein? Probablement pas de façon gentille.
Avant de la tuer 55
ouais.
fois.
Ouais.
OK.
Et là, à peu près au même moment, la fille de Madame Yarnold, qui a été assassinée dans le West Island, elle a remarqué que les cartes de crédit de sa mère ont été utilisées le jour de sa mort et le lendemain. Fait que, t'sais, elle regarde les comptes mm-hmm. après le décès de sa mère, puis elle se rend compte de ça. Elle contacte la police. Là, même chose, ils réussissent à avoir une vidéo au guichet. C'est un homme barbu, blanc, d'environ 5 pieds 10. Et là, à ce moment-là, ils font le lien entre les meurtres de Yarnold, Gaudreau et Litzak.
OK.
Et là, enfin, le pauvre mari est plus suspecté d'avoir tout sa faute. Ouais. C'est ça. Fait que la police pense qu'il torturait ses victimes pour avoir leur nip.
Ouais. Ouais.
Et là, c'est là qu'ils établissent la théorie que probablement qu'il se faisait passer pour un homme de main.
Pour rentrer à l'intérieur.
Ouais, pour rentrer à l'intérieur parce qu'il n'y a jamais d'entrée par infraction. Mm-hmm. Et c'est comme si les victimes les laissaient rentrer.
Comme un gars de Vidéotron qui rentre chez vous. Puis qui,
ouais. C'est ça.
Aïe, aïe, aïe.
Alors là, on se téléporte au 14 décembre 99. Donc, encore une fois, pas très longtemps. Là, un mois après le dernier meurtre. À la baie d'Urfé, donc en West Island, un homme offre ses services de jardinage dans un quartier. Donc, une madame qui répond à la porte. Elle consulte son mari. « Ah non, on n'a pas besoin de service de jardinage. » L'homme s'en va. Et là, le lendemain, sur la même rue où quelqu'un est venu sonner à la porte pour offrir ses services de jardinage, Madame Mary Elizabeth Glenn, qui était une artiste visuelle bien connue et active dans sa communauté, est retrouvée morte par la femme qui venait faire l'entretien de la maison. Donc, encore une fois, c'est très violent. Et là, c'est encore la madame biologiste badass, Jacinthe Prévost. Jacinthe. C'est elle qui vient inspecter la scène de crime. Donc, grâce aux traces de sang, elle réussit à reconstituer qu'est-ce qui s'est passé, qui s'est probablement passé. Donc, elle pense que l'homme a pu rentrer sans... La victime l'a laissé rentrer et que l'attaque a commencé dans la cuisine. Que la victime a réussi à se sauver plusieurs fois dans l'emprise du meurtrier. Ils ont retrouvé des lunettes ensanglantées en bas de l'escalier. Puis c'est ça, elle pense qu'elle a réussi à s'échapper plein de fois parce qu'il y avait comme des touches de cheveux, des touffes de cheveux qui ont été arrachées. Parce qu'elle a probablement qu'il venait par là, puis elle a réussi à se sauver. Elle a été battue, poignardée à plus de 20 reprises. Et apparemment, elle a tellement été brutalement battue que son visage était méconnaissable.
Ouais. Oh mon Dieu! Tout ça pour avoir son nez?
Ouais.
Aïe, aïe. Alors j'ai mal au cœur.
Avoue, hein, c'est ça. Apparemment que c'est tellement violent, les scènes. Toutes les gens qui ont travaillé sur ces scènes-là, ils disaient que c'est comme les pires qu'ils ont vu de leur vie. Là.
Oh mon Dieu! Ouais.
Donc là, qu'est-ce qu'ils retrouvent comme indice? Ils retrouvent des empreintes de souliers en sang, encore une fois.
D'accord.
Et ils retrouvent aussi du sang dans l'évier. Donc, encore une fois, probablement qu'il s'est coupé en poignardant. Alors, ils savent qu'il est allé dans la cuisine se laver les mains, mais il a laissé du sang. Et on sait aussi qu'il est monté à l'étage parce qu'ils ont vu comme des empreintes en sang qui montaient les marches. Mm-hmm. Donc là, les gens capotent. Les gens ont peur, là. C'est vraiment épeurant. Là. C'est comme 4 femmes seules qui se sont faites agresser, tuer vraiment violemment, en dedans de 4 mois. Là.
Ouais.
Donc, à ce point-là, on a sa taille de soulier, son ADN, on l'a sur vidéo. On est presque, là. T'sais, ils ont quand même plusieurs preuves, mais il manque quelqu'un à qui le comparer. T'sais. Et là, on revient à notre ami Jean-Paul Meunier, l'expert médico-légal, que là, il aidait Jacinthe sur cette scène de crime-là. Et il finit par trouver une empreinte digitale.
Digitale? Ouais. Ouh!
Apparemment que ça a été vraiment difficile à prélever. Là. C'était comme à moitié sur comme le cadre de porte. Puis, il réussit à la prélever. Et là, il la rentre dans le système. Et là, il trouve une correspondance. C'est William Fife.
Ils l'ont trouvé.
Ouais.
Oh, mon Dieu.
Parce que
il
était déjà dans le système pour vol et entrée par infraction.
Ah!
Ouais.
OK. Il a juste step up sa game, dans le fond.
Ouais.
Avant, il entrait par infraction, puis là, il tue en plus. Il a arrêté.
Il rentre pas par infraction.
Ouais, en fait, il a arrêté d'entrer par infraction, mais là, il tue déjà. Mm. Ah.
Alors, qui est William Fife? Ah oui, attends, je vais te montrer une photo. il est pas cute.
Non, ils sont-tu cute des fois?
Check ça. Et qui est comme...
Oh mon Dieu! Okay, là, je vois un homme qui a l'air de vouloir m'arracher la face. Un peu chauve, coupe longueuil, mais chauve sur le top. Avec genre des cheveux noirs en... On dirait des cornes.
Ouais.
Ses cheveux noirs. OK, pas très beau.
Non, il est pas cute.
On invite tout le monde à aller le googler.
Ouais, ouais. Mais j'ai trouvé aussi une photo de lui jeune, puis il était quand même un peu cute.
Ouh!
Quand même un beau gars. Ouais.
Ah, merde. Ouais, il était beau. Ouais. OK.
Plus jeune, il était beau.
Mais il a de l'air badass. Là.
Ouais, ouais. Vraiment. Ouais, donc, En 99, c'est un homme de 44 ans à ce moment-là. Il est né à Toronto en 1955, de parents pauvres, apparemment d'un père violent et malfaiteur, c'est ce que j'ai lu.
Malfaiteur.
Et malfaiteur.
Les gros mots, toi.
Alors, rapidement, ses parents ne peuvent pas s'en occuper, donc c'est sa tante qui l'élève. Et il déménage à Montréal dans Parc Extension en 1958. Donc, il est né en Ontario, mais il a vraiment grandi au Québec. Apparemment, il parlait vraiment français... Bien, mais il avait un petit accent anglophone en l'air. Dans Parc Extension, il fréquente l'école secondaire Barclay. Et j'ai lu, c'est écrit, il était connu pour uriner dans l'autobus scolaire.
Ah!
Fait que peut-être que c'était un enfant.
On est tous famous pour quelque chose.
Oui.
Chacun son truc.
Et son premier contact avec des problèmes judiciaires, la loi, les policiers. C'est en 75, donc quand il a 20 ans, il est accusé de vol et il est condamné à 6 mois de prison. Ah, puis après ça, il a fait une série de vols, puis il s'est fait repogner quelques fois, là, donc c'est pour ça qu'il était dans le système. Et qu'est-ce qu'il faisait comme vie? Il était handyman, donc il faisait des petits travaux de construction, des petits... homme à tout faire. Il a été marié.
Hein?
Ouais, ce gars-là a été marié de 83. Bon, il s'est marié en 83. Il a eu un enfant avec sa femme. En 86, elle a demandé le divorce. Puis finalement, en 88, ils se sont divorcés. Apparemment, qu'il était un mari violent. Qui est surpris? Mais c'est sa femme qui a eu la garde complète de l'enfant. Donc, je pense qu'il a pas mal perdu contact avec son enfant, sa femme.
Avec son cerveau aussi.
Je pense, en fait, il l'avait déjà perdu à l'époque.
Ah, ouais,
spoiler.
Oh!
Mm-hmm. Donc, la police, donc il retrace l'information sur lui. Puis là, sa dernière adresse connue était au nord de Montréal, mais là, il n'a plus l'air d'être là. Ils ne sont pas sûrs, il est où. Et là, la police a un dilemme. Là, ils se demandent, est-ce qu'on sort tout de suite ça dans les médias ou on attend, puis on essaie de récolter un peu plus d'informations sur lui, puis essayer de, comme, peut-être de... de le pogner encore plus une fois qu'on va l'avoir, là, pour être sûr.
Sans alarmer la population.
Ouais. Alors, ils décident de se laisser quelques jours. Comme de ne pas le sortir dans les médias tout de suite, mais ils se mettent une date limite, comme, OK, c'est après cette date-là, on va le sortir. Donc, ils contactent l'ex-conjointe de Fife, et elle leur dit que, d'après elle, il habite maintenant chez sa mère à Barrie, en Ontario. Donc, il habitait en Ontario, puis, tu sais, tantôt, je te disais, oui, il voyageait, là.
Ouais.
Il habitait en Ontario, puis il venait jusqu'au Québec.
Ah, il habitait en Ontario pendant qu'il faisait les meurtres?
Ouais. Oh. Oui. Fait qu'il faisait comme une couple d'heures de route, là, pour aller tuer, puis revenir.
Ben, en même temps, c'est kind of...
Ouais, c'est quand même intelligent de pas tuer dans la ville où t'habites, parce que, tu sais...
Ben, dans aussi plusieurs villes différentes,
aussi,
dans des
ouais.
endroits vraiment pas calculés.
Ouais. Ouais.
Mais, tu sais, en même temps, comment tu choisis? Tu dis, ah, Sainte-Agathe.
Ouais, tu regardes sur la map, puis tu mets ton doigt au hasard, puis tu y vas.
Aïe, aïe, aïe. Ben, faut que tu trouves une maison qui a une femme toute seule.
C'est ça. Faut qu'il allait sonner aux maisons, puis que là, quand il voyait, mettons, qu'il y avait le mari qui répondait aussi, il était comme...
Il se trouve une raison.
Ouais. Genre, oh non, vous ne voulez pas de mes services, zut.
Je suis déçue.
Ou peut-être qu'il travaillait pour eux, puis il se faisait de l'argent, puis après ça, il allait tout de suite.
Tu penses vraiment qu'il faisait du jardinage?
Ben, je sais ça, parce qu'il faisait vraiment ça, genre. Il faisait vraiment des job-ins, genre. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie.
Fait. Ah ouais, c'est pas fou.
Donc là, la police de Montréal contacte le détective Jim Miller en Ontario. Alors, pour les mettre, eux, sur l'enquête, puis ils demandent de le mettre sous surveillance, ben, de vérifier s'il est vraiment chez sa mère. Donc, effectivement, là, ils repèrent le véhicule qui est immatriculé à son nom, à l'adresse de sa mère, et ils le mettent sous surveillance. Alors là, quelques jours plus tard, il est encore sous surveillance, donc il pourrait l'arrêter, mais il l'arrête pas encore. Puis là, il publie dans les journaux. Donc, il publie sa face, son nom, c'est un homme recherché, mandat d'arrêt contre lui, nanana. Parce que là, la police, avec ça, il espère que d'autres victimes vont
manifester.
Se manifester. Merci. Alors, évidemment, l'histoire choque le pays au complet. Pendant ce temps-là, Manny Fife, il va à Toronto, puis apparemment qu'ils l'ont vu, genre, acheter des journaux qui parlaient de lui, tu sais.
Avec sa face dessus.
Ouais, bravo. Pendant qu'il était sous surveillance.
Bravo, mon chat.
Là, ils ont bien fait de le mettre sous surveillance, parce qu'il y a un truc vraiment cave qu'il fait. Quand il revient chez lui à Barrie, il prend des sacs de poubelle, il s'en va les dumper derrière une église. Là, dès qu'il part, 3 secondes après, la police va pogner ce que j'ai. Puis dedans, il retrouve 3 paires de souliers.
De femmes?
Non, d'hommes. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur les scènes de crime? Des empreintes de souliers. Et que la police les ramasse direct. Alors finalement, le 22 décembre 99, la police décide de passer à l'arrestation. Ce qui sont quand même efficaces parce que la dernière victime, elle a été tuée le 14 décembre, puis le 22, ils l'arrêtent.
Oh!
Ils ont quand même... ils ont pas niaisé, là.
Ben, c'est que si on réussit à avoir un mandat pour le faire surveiller 24/7...
Puis ça veut dire que l'empreinte dans le système, tout ça, c'est allé vraiment vite, là. Ils ont pas niaisé, là.
Non, ils ont pas niaisé.
Ça avait l'air d'être du bon travail
dans
de policier,
la majorité
là.
Des histoires qu'on lit, la police, ben, sans diminuer leur travail, là, mais... Ils dorment.
Oui, souvent, on dirait que c'est fâchant. Ils n'ont pas agi assez vite. Mais là, dans ce soir-là, ils ont agi assez vite.
C'est génial.
Ils ont été vraiment efficaces.
On dit pour une fois qu'il y a une belle...
Oui. Bravo, la police.
Bravo.
Bravo, Madame Jacinthe et Monsieur Meunier. ils l'arrêtent pendant qu'il est à une station d'essence. La police arrive. Ils font « Vous êtes sous arrestation. » Puis la première chose qu'il dit, c'est « Why don't you shoot me now? »
Ah! Ça, c'est comme avouer d'être coupable.
Ouais.
OK.
Alors là, pendant l'interrogatoire, apparemment qu'il est vraiment arrogant, fâché, là, il fume beaucoup. Dans ce temps-là, on avait le droit de fumer, non? À l'intérieur.
Partout.
Puis apparemment qu'il a tiré la plug de la caméra plusieurs fois, genre, parce qu'il était fâché. Fait que finalement, l'interro donne pas grand-chose, parce qu'il est juste comme désagréable. Mais la police peut ramasser les bottes de cigarettes pour comparer l'ADN qu'ils ont ramassé sur les scènes de crime. Et donc là, ils regardent là, toutes les preuves qu'ils ont. Et pour le meurtre de Yarnold, ils ont retrouvé des traces de sang de Madame Yarnold sur le linge de Fife.
Ah.
Pour Monique Gaudreau, ils avaient retrouvé son ADN, donc ils l'ont comparé, ça match. Plus les souliers, l'empreinte en sang, ça match.
C'est béton preuve.
Ensuite, il y a Teresa. Ils ont retrouvé la bague de Teresa dans les trucs de Fife.
Mais il est un peu niaisu.
Pour Marie-Elisabeth Glenn, ils ont retrouvé l'empreinte digitale, les souliers, ça fitait, puis le sang de Madame Glenn sur le linge de Fife. Et tu sais, c'est béton, là. C'est vraiment béton comme preuve. Là, il reste... j'avais dit que je te reviendrais sur l'affaire de Jeannette Kuczynski, la madame qui s'est faite battre à mort sur la piste cyclable. Ben, jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça reste un meurtre irrésolu. Ils n'ont jamais réussi à le lier avec Fife, puis ils n'ont jamais dit que c'était lui. Donc, personne n'a jamais été reconnu coupable de ce meurtre-là. Puis aujourd'hui, il y a un banc de parc qui porte le nom de madame Kuczynski dans Greer Park à Pierrefonds.
Hein?
Ouais, c'est quand même triste.
C'est sûr que je vais aller voir. Mm. Ah, c'est triste. Ouais. Puis tout le monde pense que c'est lui.
Ben, on dirait que ça fit peut-être. C'est vrai que ça fit moins avec son MO, là, son modus operandi. Ouais. Mais en même temps, ça se pourrait aussi, là. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. C'est triste.
C'est la pire chose quand la famille des victimes n'ont pas de closure.
Ouais, vraiment. Donc là. C'est pas fini tout
c'est
ça.
C'est pas fini, mon Dieu.
Là, avec toute la tension médiatique, là, le Canada au complet en parle, c'est surtout au Québec, il y a un homme qui contacte la police, un homme qui habite dans la ville de Montréal. Il dit que lui, il connaissait Fife il y a 20 ans. Il jouait au hockey avec lui. Puis ce monsieur-là, sa mère, elle s'est faite assassiner en 1981.
Il croit que c'est Fife?
Elle s'appelait Hazel Scatolon. Elle avait 53 ans. Elle a été poignardée à plusieurs reprises, agressée, étranglée avec une chaînette et du fil électrique. Et, drôle de coïncidence, Fife y était venu peinturer chez sa mère pas longtemps avant le meurtre.
Oh God!
Puis là, la police, elle avait gardé de l'ADN d'il y a 20 ans qui avait été prélevé sur cette scène de crime-là. Il compare et c'est un match.
Non!
Ouais. Alors là, il est accusé de 5 meurtres. De Hazel Scatolon, Anna Yarnold, Monique Gaudreau, Teresa Litzak et Marie Glenn.
Je savais pas que la police gardait l'ADN d'une scène de meurtre aussi longtemps.
Ouais.
C'est impressionnant.
C'est hot, hein? Comme 20 ans après, là.
Oui.
C'est vraiment hot. C'est ça, pour vrai, la police là-dedans, ils ont genre coup sur coup, ils ont bien fait, là.
Ouais. On est fiers de vous autres, guys.
Et finalement, je pense la veille du procès, il finit par plaider coupable. Parce que là, ils ont tellement des preuves béton contre lui, tu sais. Alors, il est condamné à prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Même pas de libération conditionnelle avant 25 ans. Et le juge qui l'a condamné, il dit qu'il a regardé les photos des scènes de crime, là. Il dit que c'est la pire chose qu'il a vue dans toute sa carrière de juge.
Il a démoli.
Ouais, il n'avait jamais vu une telle violence avant. Donc, puis un truc cool. Pendant le procès, la fille de Yarnold était vraiment stressée de voir Fife, là, de voir comme l'homme qui a tué sa mère. Puis là, elle dit finalement, quand elle l'a vu assis à côté, comme pas loin d'elle, elle dit « Ah, oh, c'était juste un petit homme pathétique. » Puis là, elle était plus stressée. Genre, apparemment qu'il était juste comme... Il avait tellement l'air d'un homme normal,
ouais.
Pathétique. Genre. Il était comme vraiment pas...
T'imagines pas cette personne en train de massacrer quelqu'un,
non,
de poignarder quelqu'un 55 fois.
Ouais. Et là... On est rendu à 5 meurtres.
Ouais.
Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse 4 autres meurtres.
4?
4 autres meurtres. En échange d'aller purger le reste de sa peine en Saskatchewan. Parce qu'il est tellement détesté au Québec, là. Tu t'imagines, c'est pire meurtrier que le Québec ait jamais connu. Fait que même dans les prisons, il n'est pas apprécié. Fait qu'il a peur pour sa sécurité. Fait que là, en échange, il dit comme, OK, ben je vais vous confesser 4 autres meurtres.
Ils font tout le temps ça, ils échangent des informations. Ouais. Oh mon Dieu.
Alors là, c'est 4 autres meurtres. On a sa première victime, là, qu'on pense que ce serait vraiment sa première de tout. C'était en 79.
Oh.
Donc, quand il avait 25 ans. Donc, le 17 octobre 1979, il y a Suzanne-Marie Bernier, une femme dans la soixantaine, qui a été retrouvée par sa belle-sœur, poignardée chez elle, dans le quartier Ville, à Montréal. Puis là, apparemment, Fife dit que cette journée-là, il avait déjà des démêlés avec la justice là, à cause de des vols qu'il avait faits.
Mm-hmm.
Donc, cette journée-là, il était supposé se rendre à un projet de réinsertion sociale, mais à la place, il a décidé d'aller tuer.
Ah! Comment tu peux te bifurquer de ta journée à ce point-là?
Petit changement de plan.
Ça me tentait pas, finalement.
Et, ensuite, il confesse le meurtre de Nicole Raymond, qui était seulement un mois après son premier meurtre, donc le 14 novembre 1979. Une femme, donc Nicole Raymond, 26 ans, retrouvée demi-nue, poignardée à la gorge et au thorax à Pointe-Claire, à Montréal.
Dans West Island.
Ouais, dans le West Island. Ensuite, le 26 septembre 87, on a Louise Blanc-Poupard à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, qui a été poignardée 17 fois. Et puis finalement, le dernier meurtre auquel il confesse, le 9 juin 1989, Pauline Laplante, 44 ans, poignardée et agressée sexuellement à Sainte-Adèle.
Aïe.
Puis là, les policiers qui l'ont interrogé pour ces confessions-là, il dit qu'il était tellement neutre en racontant ça. Puis, comme c'est ça, il dit... Il y a un livre qui a été écrit sur lui qui s'appelle genre... non, c'est comme « A very, very ordinary man ». À quel point il était juste
c'est vraiment
banal.
Bon,
ouais. Ouais, il avait tellement pas l'air intéressant, tu sais.
Un gars beige.
Ouais, ouais. Fait qu'il passait tellement inaperçu.
Mais les psychopathes, c'est ça. Hein?
Mais c'est un truc qu'ils ont dit, par exemple, qui le différenciait un peu des psychopathes, des tueurs en série... plupart des tueurs en série, c'est qu'il voulait pas être le centre de l'attention, nécessairement. Genre, il faisait pas tout pour être le centre de l'attention.
OK.
Ouais, comparé à d'autres. Mais en même temps, il a quand même lu les journaux sur lesquels il était.
Il a quand même acheté sa face.
Ouais, c'est ça. Mais là, OK, fait que là, il a fait des meurtres. Il a commencé en 79, puis il a arrêté en 99. Là, on a des meurtres de comme 79 à 81, un en 87, un en 89, puis après ça, en 99, t'en as comme 4.
Mais il s'est marié en 83. Fait qu'il y a des
trous, là. Ouais, fait que là, peut-être le moment où il était marié, ça explique qu'il était un peu plus calme.
Mais... Parce qu'ils se sont divorcés en 88.
Ouais. Puis là, ben, il a tué en 87. Mais là, ce qu'ils pensent, la police, il y avait un violeur qui était surnommé le violeur plombier dans les années 80 à Montréal, qui a fait comme une vingtaine de victimes. Puis c'était un homme qui se présentait à les maisons, dans des blocs appartements, il cognait aux portes, puis il disait qu'il était plombier, puis qu'il devait venir réparer quelque chose qui coulait chez les voisins. Fait qu'il fallait absolument qu'il rentre dans l'appartement. Mais là, par exemple, ce violeur plombier, mais il tuait pas ses victimes. T'sais, il violait, puis il volait de l'argent aussi souvent, puis des cartes.
Non.
Ouais. Alors la police, ils ont vraiment des bonne raison de croire que c'était lui, alors que peut-être pendant ces années-là, ça comblait assez son besoin de violence, puis qu'il allait pas jusqu'à tuer, mais...
C'était quoi les années du plombier?
C'était dans les années 80.
OK.
Ouais.
Fait que exactement ça... là où il y avait un petit gap.
Ouais.
Oh God. Mm. Donc finalement, Fife, il y aurait une trentaine de meurtres à son actif. Et
ben,
peut-être plus?
Ben, d'agression une trentaine. Ouais, d'agression une trentaine.
Et meurtre.
Meurtre, officiellement, il y en a 9. Mais il est dans 5... Il y a 5 autres enquêtes de meurtre non résolues dont il est le principal suspect. Mais qui n'ont jamais réussi à le prouver à 100%. Donc, c'est ça. La police pense qu'il y a vraiment, vraiment plus de victimes qu'ils ont réussi à prouver ou que Pfeiffer
lui est mort de rire. Moi, je suis en avocate, tu fais toutes mes 4 volontés. Puis
c'est ça. Mais il y en a peut-être une dizaine d'autres, tu sais. Tu sais, s'il y en a tué 4 en 4 mois, là, qu'est-ce qu'il a fait de 89 à 99? Je suis sûre qu'il y en a tué d'autres. Peut-être en Ontario, peut-être qu'on sait moins. Peut-être, tu sais, s'il tuait ailleurs, tu sais, il mêlait les policiers vu que c'était pas tout le temps dans la même ville.
Mais tu sais, tu dis quoi à ta femme, genre? Je m'en vais un petit week-end à Montréal?
Ouais, tu dis, j'ai une job-in, là, faut que j'aille.
Ah ouais, c'est vrai, c'est un homme à tout faire.
C'est ça?
Aïe, aïe.
Et là, donc il a été condamné en 2001 pour 25 ans. Donc en 2026, il pourrait sortir. Il est encore en vie.
On sait, il est où?
Il est en Saskatchewan.
Ah oui, ben oui.
Ouais, il est dans un hôpital psychiatrique en Saskatchewan, en fait.
Ah, il est pas en prison?
Non. Donc c'est ça, il pourrait sortir en 2026, puis il aurait 70 ans à peu près.
C'est sûr qu'il est rendu moins dangereux, un peu moins menaçant.
Mais, tu sais, peut-être, t'sais, ça se pourrait qu'il sorte jamais, là. Je pense qu'il y a des conditions spéciales que par la loi, tu peux dire que quelqu'un est trop dangereux, même s'il a purgé, comme,
ben, ça le minimum de sa peine. Ça dépend comment il s'est comporté, mais là, il est en hôpital psychiatrique, il est même pas en prison.
Ouais.
Oh my God.
Fait que je vais finir ça là-dessus.
C'est la
On verra en 2026 s'il sort.
À suivre, on s'en reparle dans 5 ans, parce qu'on est quasiment en 2021.
Ouais.
Oh God.
C'est fou, hein, comme histoire.
Ouais, vraiment.
Il a tellement tué de monde, puis probablement vraiment plus qu'on pense, puis il était tellement violent.
Puis c'est ici, c'est ça qui me fait encore plus capoter.
Ouais.
Parce qu'on est à Montréal. Ouais. Ah, oui. Mais ça faisait longtemps que je l'entendais, cette histoire-là. Je la lisais pas parce que je savais que tu voulais me la raconter. Je le vois partout à chaque fois que son nom est pop, William Fife.
Mm.
Je l'ai pas lu, mais je suis contente de ne pas l'avoir lu.
Yeah. Comme ça, j'ai pu te raconter.
Oh, merci.
Fait que là, la prochaine fois, c'est toi qui racontes l'histoire, Mel?
Oui, j'ai assez hâte. J'ai déjà fait ma petite recherche. Je vous dirai pas le nom de mon tueur en série. Encore une fois, je vous raconte l'histoire de quelqu'un de... Un tueur assez connu canadien, de la Colombie-Britannique encore, parce que, écoute, c'est
la thématique, on dirait.
C'est mathématique. Et pauvres gens qui habitent là, mon Dieu. J'ai été assez surprise par cette histoire-là. C'est le tueur en série qui a fait le plus de meurtres et c'est la plus grande enquête de meurtre qui a été faite au Canada à ce jour. Donc,
j'ai hâte de l'entendre.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Oui, merci beaucoup d'être encore là pour un troisième épisode.
Oui. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux à Crime de Bin Podcast.
Ouais, Crime de mythe de podcast à commercial Gmail, vous pouvez nous écrire, sinon sur Facebook, on aime ça voir vos commentaires, là. C'est le fun de savoir que
vos
les gens nous écoutent.
Vos suggestions aussi.
Ouais, vos suggestions. Mm. Alors, merci beaucoup!
Merci!
Bye!
Bye!
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.